Bonjour, bonjour.
Chut, vous écoutez, pop, pop, pop. Silence, s'il vous plaît, je vais parler.
Bonjour,
c'est écrit, Bonapoulevard Boulevard? Non, c'est pas écrit. Mon petit chéri, si tu ne l'écris pas, je suis un abruti, hein, je suis acteur. Alors, on reprend. Bonjour, bonjour, c'est Ligne Barré, Benoît. Vous écoutez, pop, 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 texte libre. Bon, ben, pop, 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 c'est parti, merde.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. C'est aujourd'hui la fête des voisins et notre invité est corse. Je sais, c'est une phrase étrange, puisque nous partageons le même appartement ou à minima le même palier, mais quelque chose dans cette phrase m'amuse et moi, vous me connaissez, un rien m'amuse. Bon, c'est vraiment la fête des voisins et après la fête de la musique, c'est sans doute la journée que je redoute le plus dans l'année. Et ça fait 20 ans que ça dure, suite à l'initiative d'un certain Athanase Périfan qui, pour des raisons qui m'échappent encore, avait une folle envie de se rapprocher de ses plus proches contemporains. Drôle d'idée. Moi, mes voisins, je vais vous dire à quoi ils ressemblent. Dans mon immeuble, il y a une vieille peau qui fait peur aux enfants et qui a dû balancer du juif en 42. Un môme qui s'escrime à apprendre le violon en dépit d'un problème psychomoteur qui n'échappe à personne. À commencer dans mon voisin du dessous qui proteste tous les soirs à grands coups de bélier dans le mur mitoyen vu que ça le dérange. Dans son écoute recueillie et à fond les ballons de l'œuvre de Francis Lalanne. Il y a aussi un exhibitionniste qui s'obstine à descendre tous les soirs la poubelle cul nu en faisant l'hélicoptère avec sa bite, sans oublier le Togolais de l'entresol qui se nourrit exclusivement de plats à base de manioc, qu'il pile méthodiquement vers 19h30, et Monsieur Combaze, allez je dis son nom, le Savoyard du deuxième qui lui ne jure que par la raclette été comme hiver, fenêtres ouvertes. Et non, vous voyez, il n'y a pas de Corse. Moi les Corses, j'ai pas besoin que ce soit mes voisins pour les inviter. Antoine Albertini est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui n'enquête consciencieusement que pour savoir ce qu'elle va choisir pour le déjeuner, Charline Roux. Bonjour.
Je suis très forte dans cet exercice.
Bonjour Charline. Bonjour. Et notre invité, lui, est un enquêteur chevronné venu nous présenter son premier roman Mala Morte. Bonjour Antoine Albertini.
Bonjour Antoine de Caunes.
Et bienvenue dans cette émission. Également au menu de Pop-Pop Pop, le créateur d'une série sans images.
Police nationale à votre écoute.
Allô.
Aussi effrayante qu'efficace. Ça s'appelle Calls et on parlera de la saison 2 qui arrive avec Timothée Hochet. Mais avant ça, Antoine Albertini, ici il existe une question encore plus agaçante pour un Corse qu'un Pinsoto, qui confond donc Lonzo et Jambon Fumé. Et cette question, c'est... Pour vous, moi, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un de vos confrères, le romancier Michael Conley.
C'est quelque chose qui fait une photographie de la société, qui attrape quelque chose et puis qui, quelque part aussi, se perd ensuite.
Voilà. Et pour vous, Antoine Albertini?
Alors, vaste sujet. Pour moi, la pop culture, je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais j'aurais dit que c'était une culture... Pour moi, c'est une culture alternative... souvent d'origine urbaine, pas seulement, mais souvent, qui a tendu longtemps à déconstruire l'art un peu officiel, à faire que la culture descende dans la rue, s'invite chez les gens, dans la sphère privée, etc. Mais je suis en train de me demander si c'est pas devenu quelque chose d'hyper mainstream, finalement, et qui tend à tout uniformiser, la musique, le cinoche, les bouquins, etc. Et les formes de pop culture qui m'intéressent le plus, moi, et ce que je considère comme étant la pop culture pour moi, ça devient presque la culture underground, c'est-à-dire ces auteurs un peu qu'on se repasse entre connaisseurs, qu'on n'a pas envie nécessairement de partager avec des gens qu'on connaît pas, dont on fait pas la pub pour rester dans un cercle restreint de connaisseurs. Ça peut être des bières totalement méconnues et qui sont excellentes et pareilles, dont on n'a pas nécessairement envie de faire la pub. En fait, c'est finalement pour moi une bonne définition de la pop culture, ce serait tout ce qui peut nous faire plaisir qui ne se partage pas.
D'accord. Donc tout ce qui est encore
c'est
en marge,
c'est pas du tout clair. Hein, j'en
si, ai si, conscience. C'est très clair. C'est tout c'est ce limpide. Qui est en, tout ce qui est encore en marge et qui n'est pas devenu mainstream.
Ouais, il faudrait parler de sous-pop culture.
De sous-pop, un truc comme ça, ou de sous-pop, ou de vielle, si au Vatican. Très bien.
Une sorte de club privé, en quelque sorte.
Oui, dites oui.
C'est pas à partager.
Non, mais il faut que ça reste informel. Faut pas, la notion de club et de machin, non. Faut que ça irrigue, faut que ça infuse. Voilà. Faut pas qu'il y ait de signes de reconnaissance et de costume.
Bien. Merci, Antoine Albertini. On va continuer à parler de pop de culture et de pop culture et d'enquête corse juste après le tout nouveau Nick Lowe, Love Starvation.
Starvation, hugging my pillow all alone in a rickety bed. Baby, if it's any consolation, the needle's in the red. It only hit me when I went by a mirror, just when I saw what was written all over my face. I'm suffering love starvation, a very bad case. Something about love starvation. It's like a prison in your mind. You're locked up in disappointment, desperation. You're two old friends. Make it stop. If only I could turn back the clock. Make it so, cause I tell you that I can't exist in a world like this. Show me the love that comes in colors, or even one I can dream in black and white. Any love is better than no love, so any love's right. Make it stop, if only I could turn back the clock now. Make it so, cause I tell you that I can't exist in a world like this. I woke up early with love starvation, hugging my pillow all alone in a rickety bed. Baby, if it's any consolation, the needle's in the red. The needle's in the red. Love starvation, baby, it's got me on the back foot. It's put me in a dark and lonely place. It's got me never knowing if I'm ever going to start living again. Love starvation, baby.
Love Starvation de Nick Lowe. C'est un nouveau Nick Lowe et ça c'est toujours une excellente nouvelle. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Antoine Albertini, mais qui est cet homme au nom si délicieux? Non, c'est vrai, Antoine, c'est vraiment un prénom admirable, porté par les plus grands, Saint-Exupéry, Saint-Antonio, Griezmann, sans parler de Saint-Antoine, de Padoue, bien sûr.
Mais c'est bon, on a compris, Antoine.
Okay. Donc, qui est donc notre invité? Réponse avec son pop portrait. Donc, votre pop portrait, Antoine, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, un invité qui exerce une profession dont la cote de popularité auprès des puissants n'a d'égal que leur capacité à ne pas fauter, soit un zéro pointé. Notre invité exerce la noble profession de journaliste avec option investigation, ce qui lui donne un regain de moins 12% sur les sondages d'opinion d'après une enquête DGS Ipsos et un plus 52% chez Ifop Pop Pop. Notre invité est correspondant pour Le Monde en Corse et s'intéresse en livre à d'épineux dossiers. On lui doit les dessous de l'affaire Colonna, la femme sans tête enquête sur une affaire classée, ou encore Les Invisibles, pour lequel il a voulu reconstituer le parcours d'un homme exécuté d'une balle de fusil de chasse dans le dos pour raconter le sort des ouvriers agricoles maghrébins sur l'île de Beauté. Aujourd'hui, il vient nous parler de son premier roman, Malamorte, situé évidemment sur l'île Suscitée, dans lequel on retrouve un homme qui a tué sa femme et sa petite fille avant de tenter de se suicider, et une randonneuse assassinée. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, sachez que notre invité se présente ainsi sur Twitter, je cite « Ni de droite, ni de gauche, ni trop glycérine ». Une émission donc explosive.
Ni de droite, ni de gauche, ni trop glycérine. Vous avez le sens de la formule, Antoine?
Oui, non, mais je ne sais plus où j'ai chopé ça. C'est même pas de moi. J'ai juste trouvé ça drôle. Et manifestement, ça fait rire que moi, souvent.
Non.
Ah non, d'accord.
Non, nous sommes au moins trois. Antoine Albertini, c'est l'heure de votre pop-list.
Pop.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le Grand Nulle Part de James Ellroy, sorti en 98. Et Charline, vous ne me contredirez pas, il est bien naturel qu'un auteur de polar en réfère à l'un des maîtres du genre. Est-il d'ailleurs ailleurs, ce Grand Nulle Part?
Tu as compris cette question, Antoine. Je vais dire oui. Même. Dans les années 50 aux États-Unis, Ellis Lowe, procureur ambitieux, décide d'enquêter sur une union syndicale dans le milieu du cinéma qu'il considère comme marxiste en pleine période macartiste. C'est fâcheux. Deux enquêteurs que tout oppose sont chargés de cette enquête politique. Malcolm Cantilin, redoutable interrogateur, et Dudley Smith, figure légendaire du LAPD, aussi réputé pour son intelligence que son extrême violence et son racisme.
Merci Charline. Antoine Albertini, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un paragraphe, s'il vous plaît?
À 0h03, un carambolage de quatre voitures sur Sunset et la Cienaga eut pour conséquence un peu de tôle froissée et une demi-douzaine de blessés. Les adjoints arrivés sur les lieux recueillirent les déclarations des témoins oculaires. Les responsables de l'accident étaient le rigolo dans le deux sauteaux marron et le major de l'armée de terre de Kamcook au volant de sa voiture de service qui faisait la course sans les mains, avec chacun sur les genoux un chien coiffé d'un chapeau de couillon.
Le Grand Nulle Part, extrait lu par de James Ellroy, lu par Antoine Albertini, votre choix littéraire. Quand on aime le polar, quand on écrit du polar, on peut pas sauter la case Ellroy.
Alors, Ellroy, pour moi, c'est surtout une double rencontre personnelle. La première a eu lieu le 1er août 1994, j'avais 19 ans, le jour de mes 19 ans. Mmh. Et un ami qui me demandait qu'est-ce qui te ferait plaisir, je lui ai montré une pile de bouquins parce que je trouvais la couverture chez Rivage très belle. Il y avait un mec en impair avec un trench, machin. J'ai dit, bah ça, je sais pas ce que c'est. C'était Brown's Requiem. Mmh. Je l'ai lu. En fait, j'ai passé la journée à le lire et j'ai pas assisté à mon propre anniversaire, ce qui est un truc qui a tendance à m'arriver, mais... parfois pour d'autres raisons. J'ai passé la journée et la soirée à le lire. Je l'ai terminé. Le lendemain, j'ai pris le bus pour aller à Bastia. J'habitais dans le Cap. J'ai acheté tous les Ellroy qui étaient déjà parus. Et j'ai passé le sympathique été de mes 19 ans enfermé à lire du Ellroy. Et je savais, en lisant Ellroy, que d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que je ferais plus tard, je ferais quelque chose qui serait lié avec, je dirais, le dessous des cartes.
Qu'est-ce qu'il y avait chez Ellroy qui vous séduisait tant?
Je ne sais pas. C'est les États-Unis d'abord. Je suis un fanatique des États-Unis comme entité culturelle, je dirais, et géographique. Une voix qui c'était comme si quelqu'un était penché sur mon oreille, il me racontait une histoire. J'avais l'impression, moi, de comprendre instantanément ce dont il était question, les lignes de force, les enjeux. Et ce qui me séduit particulièrement chez Ellroy, c'est qu'il n'y a pas de good guy, pas de bad guy. Il n'y a jamais le gentil mec, tout le monde a sa part d'ombre, d'ailleurs c'est le titre de ses bouquins, ma part d'ombre, on le serait à moins puisqu'il a lui-même connu une histoire tragique avec sa mère assassinée et un père particulier, bon. Et ça m'a marqué, et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le noir et dans le polar. Avant je lisais des trucs plutôt littérature blanche, et j'ai fini par le rencontrer le 8 mai 2015 dans une bergerie en Corse.
Qu'est-ce qu'il faisait dans une bergerie en Corse?
Alors ça ne vous regarde pas déjà. Je ne pense pas que je sois habilité à le dire. Il avait été invité par deux amis qui tenaient une librairie à l'époque à Bastia, qui étaient des fans, dont l'un surtout est un fanatique d'Ellroy, et on a passé la journée, une bonne partie de la journée à discuter avec lui de sujets aussi intéressants et inquiétants que les prouesses sexuelles des différents président français.
Mais c'est le problème qui est beaucoup, ça.
Giscard d'Estaing has massive slang. Alors, je ne sais pas. Voilà, je m'arrêterai là. C'était complètement dingue parce que je vais dire un truc qui peut heurter des gens, mais pour les croyants, c'était comme si un saint descendait. Et ce qui est intéressant avec Ellroy, pour le coup, c'est que on lit dans la presse française tous les poncifs sur lui. Limite facho, très réac, machin, qui envoie paître les gens, qui répond très mal. Et moi, j'ai rencontré, mais objectivement, tous les gens qui étaient là, mais un type très doux, très calme, très faisant le show, voilà, parce qu'il sait qu'on entend un minimum. Mais à partir du moment où on connaît bien son œuvre, on discute avec lui, c'est un type d'une délicatesse et d'une douceur exceptionnelle.
James Ellroy, ça c'est le choix littéraire. Pour le film, vous sortez de ses préoccupations criminelles avec l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, réalisé par Andrew Dominik en 2007. N'est-on pas là, Charline, en présence d'un titre qui en dit long sur le film qu'on s'apprête à voir?
Effectivement, le film raconte comment le lâche Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes de Jesse, va en arriver à assassiner l'homme que poursuivaient les polices de 10 états, soit Jesse James.
Quand je pense que je suis assis à côté du grand Jesse James, j'en ai passé des nuits blanches, les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte à lire vos aventures.
C'est qu'un tissu de mensonges.
C'est intéressant tout ce qu'on a en commun, vous et moi. Je suis persuadé que j'ai un grand destin, monsieur James.
Tu m'envoies des signes qui font que je me demande...
si t'as pas changé d'avis sur mon compte. J'arrive pas à savoir. Tu veux devenir comme moi ou tu veux être moi?
Et oui, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford est un film français qui a été admirablement doublé, d'ailleurs en anglais. Je vous recommande la...
Par Casey Affleck,
oui,
et Brad Pitt.
Oui, cette version qui est magnifique aussi. Pourquoi ce film?
Je vais juste faire une incise.
Allez-y.
Chaque fois j'entends dans des pubs des musiques de Nick Cave, et en particulier tirées de ce film, qui servent à vendre des raviolis en boîte ou des trucs. Je dis aux publicitaires, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous allez trop loin et un jour vous franchirez la limite au-delà de laquelle vous n'aurez plus de protection.
Je le trouve très menaçant. Ouais.
Non, mais je le dis, on ne peut pas prendre une BO d'un film comme ça et cette BO-là pour vendre n'importe quoi. D'ailleurs, on ne vend rien avec. On l'écoute. Pourquoi ce film? Parce que c'est d'abord tiré d'un bouquin de Ron Hansen qui est paru en 1983. Ron Hansen, c'est un mec qui prend des faits divers, souvent historiques, et qui les transforme en romans. C'est un genre que j'aime pas trop. Théoriquement, je préfère vraiment le true crime, machin. Mais lui, qui le fait très bien. Et ça donne à voir une histoire de Jesse James qui est complètement inverse de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est pas du tout, évidemment, le Robin des Bois qui braque les riches pour filer aux pauvres. C'est une crapule infâme, mais en même temps complètement dépressif. En même temps capable d'élan de tendresse et qui on spoile pas hein, vu le titre, on est tranquille, voilà. mais c'est une vision de la mort de Jesse James qui est géniale, puisque c'est pratiquement du suicide assisté ce film. Ouais. Et c'est incroyable. Et le tout avec une rigueur et une précision sur notamment les armes qui sont utilisées dans le truc, et je suis très attentif.
Et ça, oui, je sais que vous êtes attentif.
J'aime pas trop qu'on rigole.
Non, je le sais. Et on va pas rigoler avec les armes, je vous promets, Antoine. Antoine Albertini, on va poursuivre cette pop-list avec votre chanson culte, et c'est celle-ci.
La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me, mamma son tanto felice viver lontano perché mamma solo per te la mia canzone vola mamma sarai con me tu non sarai più sola.
Mama de Luciano Pavarotti, sorti en 84 sur l'album du même nom. Oh, j'ai l'impression que je viens d'ouvrir une boîte de ravioli.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Alors, on bascule vraiment dans le cliché méditerranéen grotesque. Ça sent le basilic, vous ne trouvez pas?
L'huile d'olive. Hein?
Alors, pourquoi cette chanson-là? Vous parliez de Nick Cave il y a quelques instants, vous passez à Luciano Pavarotti.
Oui, je sais, mais alors, j'aurais pu mettre aussi The Hitter de Bruce Springsteen.
Ouais. Qui est plaisir, ça.
Voilà, je sais.
C'est beau.
Parce que, c'est Mam et que c'est absolument ridicule et grotesque, mais j'assume parfaitement et que ça me fait penser à ma mère. Je l'écoute depuis que j'ai 12-13 ans. Et c'est un hymne, à l'amour pour les mères qui sont là. Alors, c'est évidemment très cliché, mais moi, ma mère, elle a toujours été là. Je crois que le peu de choses que je fais bien aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Et chaque fois que j'écoute cette chanson, je pense à elle. Et dans The Hitter de Bruce Springsteen, la question de la mère est centrale, puisqu'il vient taper à la porte de sa mère. C'est un combattant de backyard qui lui dit laisse-moi me reposer, il pleut, et après je repartirai. Il y a toujours cette notion-là, mais sur le... Voilà, Mam, à moi, ça me fait penser à... Effectivement, aux étés, quand j'étais adolescent, dans le Cap, on était toute une bambelle de copains, il y avait ma mère et mon père.
Voilà. Bien, hommage à la maman.
Les jours heureux.
On va finir avec la série, et cette série c'est The West Wing, ou à la Maison Blanche en VF, créée par Aaron Sorkin, diffusée entre 99 et 2006, la série qui a popularisé, n'est-ce pas Charline, la technique dont vous raffolez, le walk and talk.
Oui, il se trouve que j'ai un esprit féminin qui me permet, moi, de faire deux choses en même temps. La série The West Wing met en scène la vie quotidienne d'un président démocrate des États-Unis et de son équipe de collaborateurs, et devinez où ils sont installés.
We've got a situation.
It is the highest level of office.
It's the world capital of politics.
Where the decisions made affect an entire nation.
Terrible choices have had to be made in this room.
Watch the brightest minds as they tackle a nation's biggest issues.
They're coming after us.
We might want the fight, we just gotta find out what it is first.
I tried is no longer an option. You started this thing, and you're gonna damn well finish it.
I'm the one who's accountable.
Mr. President, a victory like this comes along once in a generation.
We're gonna have to make a call.
Democracy in action, you gotta love it.
The West Wing.
The West Wing. Et là, je découvre qu'il s'agit en fait d'une série américaine.
Pourquoi? Mais oui. Vous pensez que c'était...
Non, je connaissais la version française, parlant français. Peu importe. Pourquoi ce choix, Antoine Albertini?
Pour un personnage, Toby Ziegler, qui est le plus chiant de la bande des communicants de Martin Sheen, qui incarne le président des États-Unis.
C'est pour ça qu'il vous plaît, parce qu'il est chiant.
Parce qu'il est chiant, il rigole pas trop, mais c'est un mec qui lâche rien sur les principes. Et notamment un épisode qui s'appelle Excel 6DO, qui est absolument magnifique, où pour faire pour la faire courte, on trouve un clochard mort dans un parc et le clochard porte un pardessus dans lequel se trouve la carte de visite de Toby Ziegler, qui est un des plus proches conseillers du président. Donc le Secret Service l'appelle, il dit « Qu'est-ce que ce clodo fait avec ta truc dans le... ?» Et en fait, c'est une veste qu'il avait donnée à l'Armée du Salut. Et tout l'épisode va raconter comment Toby Ziegler se préoccupe du sort de ce vétéran, découvre qu'il a un frère qui vit dans un foyer, que ce mec a été décoré à Panmunjom, une bataille en Corée, etc. Et va organiser, sans l'autorisation du président, des funérailles militaires à Arlington, avec un silent drill de l'US Marine Corps. Et voilà, c'est le mec qui a des principes, qui a des obligations, qui est soumis à une hiérarchie, mais qui s'en fout, et qui fait ce qu'il croit être juste de faire. Il y a un échange entre Martin Sheen et lui dans le bureau du président, qui est absolument somptueux. Et au-delà de ça, c'est une série qui... Bon, le problème, c'est qu'on rate une ligne de texte, on perd l'épisode.
Ouais. Voilà. Je veux pas faire de la psy à deux balles, mais j'ai l'impression que vous parlez de vous, là. Vous parlez de ce personnage.
Ah non, pas du tout. J'aimerais avoir le courage de Toby Ziegler. Vous parlez niveau cap ici, non?
Oui, non. Je vous ai pas abordé le sujet. Nous sommes à la radio. Bon, enfin, de toute façon, écoutez-moi ce que ça donne le remix de Pop Culture une fois que j'ai passé dans mon petit remix à moi. Écoutez.
Ces enfants ignoraient comment leur père gagnait sa vie.
It is the highest level of office.
It's the world capital of politics.
Mama.
Quand je pense que je suis assis à côté du grand Jesse James.
Je viens de voir défiler ma vie, en quelques secondes.
Une partie, j'espère.
Tout intégralement.
Avant de parler de Malamorte, le premier roman de notre invité, Antoine Albertini, on va écouter un petit peu de musique. Hubert Lenoir et Fille de Personne 2, c'est extrait de son album Darlene. Hubert Lenoir dans Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Et nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Albertini, venu nous parler de son excellent polar Malamorte, paru chez Jean-Claude Lattès. Alors avant d'aller plus loin, Antoine, ni Charline ni moi ne parlons corse.
C'est votre droit.
Malamorte, ça veut dire quoi?
C'est la même chose que la malmort en français, c'est quand on meurt de mort violente, c'est une mauvaise mort en fait. Qui conditionnait à l'époque tout un tas de, jusqu'au 19e, tout un tas de rituels accompagnant la mort, quoi. Quand on mourait de mauvaise mort, il y avait les Bojeradrige et les, qui
les quoi?
Les gens qui faisaient des lamentes autour du.
Les quoi?
Alors les gens
voilà,
qui.
Voilà, parce que on parle vraiment pas corse.
Des dames,
oui.
des personnes de sexe féminin,
ça, je comprends.
Qui se lançaient dans des chants improvisés sur la nature de la mort, de la nature de la manière dont étaient morts les défunts, la manière dont il fallait entretenir son souvenir, la manière parfois dont il fallait se venger ou ce que l'on éprouvait après sa mort, etc. La malamorte, c'est tout ça. Il y a le même truc en vieux français qui est tombé un peu en désuétude, la malmort. Il y a même un roman qui s'appelle Malmort.
Alors la question posée par votre roman est qui a assassiné une randonneuse sur le sentier des Crêtes près de Bastia en Corse? Pourquoi un homme a-t-il tué sa femme et sa petite fille avant de tenter de se suicider? C'est un capitaine de police un peu trop porté sur la bouteille, relégué au BHS, le bureau des homicides simples, qui n'en ont que le nom, de Bastia, qui doit mener l'enquête. C'est bien cela?
C'est exactement cela.
Alors on l'a dit en début d'émission, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez déjà publié des enquêtes. Quel a été le déclic pour passer au roman?
La menace de mon éditrice.
C'est simple. Qui est corse.
Qui est d'origine corse. Mais non, c'est Anne-Sophie Stéphanine qui est mon éditrice.
Oui, c'est corse.
C'est Jean-Claude Lattès. Oui, il fallait. Mais il n'y a pas de clan. Hein, je vais le dire tout de suite. Elle m'a contacté après un papier qui avait paru dans le magazine Du Monde il y a 2 ans sur la violence, dans M. Et c'était, encore une fois, moi je ne me vis pas comme écrivain, peut-être comme auteur, entre guillemets, au sens générique du terme, mais elle m'a dit, voilà, ton précédent bouquin a bien marché, je crois que c'est le moment pour toi de faire de la fiction. Je lui ai dit, ne sois pas grotesque, je ne saurais pas faire de fiction, moi ce que je veux c'est faire des enquêtes et des bouquins de true crime, quoi, de vraies affaires, fouillées, etc. Et puis, elle a un truc invraisemblable, c'est-à-dire que sans vous quitter des yeux, tout en vous souriant, vous parlant très calmement, elle vous parle et vous savez pas ce qui vous prend, vous vous retrouvez à vous lever à 6h du matin pour écrire jusqu'à 10h du soir. Il y a une espèce de truc hypnotique comme ça, de transe, et c'est un peu elle qui m'a forcer la main, mais sans me forcer la main. Je sais, ben, c'est du judo mental, je sais pas comment
vous rendez compte aujourd'hui qu'elle avait parfaitement raison.
D'aucuns le disent. Oui. Je m'en garderai bien.
D'aucuns.
Nous sommes d'aucuns.
Nous faisons partie de ces d'aucuns.
C'est très gentil. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à bâtir l'intrigue. Avec, j'essaie de. Moi, je fonctionne par plan. Je fais beaucoup de plans parce que.
C'est l'habitude de votre pratique.
Enfin, ça vient surtout de mes études de droit, parce que j'ai pas fait d'école de journalisme, je suis juriste, moi, j'ai fait mes études à Paris, et je fais des plans très détaillés, et j'ai pris un plaisir assez pervers à essayer d'imaginer l'intrigue, et de me dire, bah tiens, est-ce que là, tu feintes le lecteur ou pas? Est-ce que tu vas pas rajouter un truc, un indice, un machin? Et je testais ça sur des gens, je voyais que ça marchait, j'étais très fier de moi, très content, donc j'ai prouvé une espèce de plaisir coupable. Pardon, je parle beaucoup.
Mais non, pas du tout, mais est-ce que c'est vrai que l'intrigue de la randonneuse est née d'une balade en famille? J'insiste sur le « en famille ».
Alors, vous voulez la version audible pour l'éditeur de France Inter ou la vraie version?
La vraie version, évidemment.
Oui, enfin, je faisais une randonnée sur Oulias, Oudienivers et le sentier des glacières qui est au-dessus de Bastia, qui poursuit une ligne de crête au-dessus de Bastia. C'est un endroit magnifique. Ne venez pas trop parce qu'après on s'en sort plus. on veut continuer à en profiter tranquillement. Et j'étais avec mes fils qui me posaient des questions sur la nature à laquelle je ne comprends strictement rien. C'est quoi? C'est un peuplier? J'ai eu aucune idée. C'est un chêne? J'ai eu une ça m'a l'air d'être un palmier, non, enfin, bon, bref. Et au fur et à mesure qu'on cheminait, je me disais, si on trouvait un corps là, enfin dans quelles circonstances on pourrait le trouver, dans quelle mesure, c'était un dimanche, il faisait pas très beau, donc je me disais, tiens, si quelqu'un commettait l'irréparable ici, est-ce qu'on trouverait la victime, qui ça pourrait être? Et tout en cheminant, et en méprisant totalement les questions de mes enfants, mes fils pour le coup, en leur accordant strictement aucun regard et en les menaçant d'un placement assez rapide.
Enfants, de toute façon,
c'est une très mauvaise... C'est une très mauvaise pratique, ça les encourage à s'intéresser au monde, c'est pas du tout ce qu'on vient pour eux. J'ai commencé à bâtir une espèce d'intrigue avec l'embryon, mais ça a commencé, en rentrant le soir, j'ai gratté, et puis voilà, j'ai commencé à bâtir le plan.
Vous évoquiez James Ellroy, il y a quelques instants. Point commun avec vous, ces romans les plus noirs ont pour décor cette Californie ensoleillée et pseudo-paradisiaque. Vous, la Corse, pour paraphraser Aznavour, est-ce que le crime comme la misère serait moins pénible au soleil?
Non, je crois qu'il est. Je crois que justement, le paradoxe total, c'est que dans une île qu'on présente comme l'île de beauté, après on peut en discuter à l'envi, hein, mais c'est vrai que les Corses, ils ont, et puis les autres ont tendance à magnifier la beauté de cette île. Ce qui rend le contraste très frappant, c'est que c'est un petit paradis sur terre malgré tout, même si les choses changent. Et si je reste assez pessimiste sur ce que cette île peut devenir, c'est quand même un paradis, et c'est un paradis où l'on meurt beaucoup.
Ouais.
Et c'est compliqué de mourir au paradis, parce que ça veut dire qu'on est déjà mort, du coup.
Oui, j'allais vous le dire.
Et on meurt beaucoup, et ça peut être très photogénique et très graphique d'arriver sur une scène de crime, une plage. Mmh. Et en fait, ça rend les choses encore plus insoutenables.
Encore plus sinistre.
Oui, c'est ce contraste-là vraiment offre un regard très dark, très sombre et très sinistre sur ce qu'il a. On est en droit de se dire, ce qui est un peu bête aussi, de se dire, putain, on pourrait profiter de tout ça, c'est tellement magnifique, vivre en harmonie, etc. Mais non, il y a toujours ce tropisme local. La Corse, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça, et refuser de le voir en face, c'est ne pas être courageux.
Mais justement, comment le roman a été accueilli par les insulaires?
Pour l'instant, on démarre, donc voilà. Moi, le truc qui me frappe toujours, c'est systématiquement la même chose, quoi qu'il arrive. Dès qu'un roman paraît sur la Corse, c'est la course à qui va s'y reconnaître. Pas de bol, c'est une fiction pure. Donc, mais ce qui est fou encore, c'est que même le type qui a un sale rôle dans le roman, enfin, les gens trouvent du plaisir à croire se reconnaître dans un sale personnage.
Ah, forcément, ils deviennent des personnages de roman, c'est fantastique.
Bah, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'être Dudley Smith, par exemple. j'ai pas envie de, enfin, je veux dire, voilà, je trouve ça assez dingue. Après, oui, j'ai des bons retours, et puis j'ai les critiques habituellement en Corse, qu'est-ce qu'il écrit, il donne une mauvaise image, ça, voilà.
L'office du tourisme de Bastia vous aime pas beaucoup.
J'ai reçu le coup de fil d'un élu de l'Assemblée de Corse quelques semaines avant la sortie, qui nous a dit: tu vas encore nous faire perdre 40 millions d'euros, tu es content?
Alors justement,
non, mais c'était la boutade. Hein.
Antoine, ce portrait sombre d'une Corse envahie chaque été par les touristes, n'est-ce pas une manière comme une autre d'en dissuader une bonne partie de venir vous emmerder?
Non, j'aimerais avoir cet esprit de l'escalier et être capable d'élaborer de telles stratégies, mais malheureusement non. Non, c'est une Corse où il pleut, parce qu'il pleut beaucoup en Corse, contrairement aux idées reçues, il pleut à peine moins qu'en Autriche, mais il pleut en montagne, donc forcément ça se voit moins. Mais en tout cas, le ruissellement, il fonctionne. Ruissellement, on est dans l'actu, discrétos. J'en ai un peu marre, en fait, de voir le paysage réifié et brandi comme une excuse pour tout. Et je ne supporte plus qu'on soit, nous, Corse, réduire notre paysage.
Oui.
Votre île est géniale, et puis vos champs, là, ça me fait dresser les poils. Oui, mais non, mais il n'y a pas que ça. Réduire un endroit, une communauté à un décor, c'est finalement dire: on n'a pas besoin de la communauté sur ces décors, on se contente du décor.
Votre héros sans nom, d'ailleurs, c'est bizarre, hein, il n'a pas de nom.
C'est un petit hommage discret à Dachiel Hammett, le Continentalope, le détective de Dachiel Hammett qui n'a pas de blase.
Bah justement, il s'inscrit dans la droite ligne des privés dits hard boil, hein, de Dachiel Hammett à Mick Espilan, en passant par, Elroy. Préférez Mike Hammer à Columbo?
Je préfère Columbo. Mike Hammer, quand vous lisez les premiers Mick Espilan, c'est d'un infâme racisme. C'est terrible. Je me souviens d'un roman dans lequel il dit, dans le bar grouillait toutes les pires races. Enfin, c'est épouvantable, Mike Hammer, en fait. Il y avait Stacy Keach qui était sympa avec ses baloufs et ses moustaches. Mais non, moi, je suis plutôt... j'aime bien Columbo, le loser qu'on voit pas venir et qui décanille tout à la fin, quoi.
Et votre héros a souvent la vision troublée par l'alcool. Quelle méthode est-ce que vous avez employée pour vous mettre dans sa peau? Est-ce que vous avez joué la carte du gonzo?
Alors, je vais faire une réponse très politiquement correcte. Je me suis fondé sur de très lointains souvenirs d'une ivresse par ailleurs extrêmement maîtrisée. J'ai lu énormément sur le sujet. Je me suis documenté, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et je me suis contenté de ça. Non, je crois que j'ai même pas bu une goutte pendant les mois de rédaction. J'aurais bien aimé, mais j'arrive plus.
Vous avez un héros qui est un héros désabusé. Est-ce que c'est le point de croisement du journaliste, après toutes ces années d'enquête, et du nouveau romancier que vous êtes?
Je crains d'être un peu plus que désabusé, malheureusement. Je commence à être un petit peu même désespéré. Pendant longtemps, je me suis mis des œillères, refusé de l'admettre. Mais en fait, couvrir ce type d'actualité, même si je n'ai pas fait que ça. Moi, en plus, tout à l'heure, vous parliez journalisme d'investigation. Moi, je me garderais bien. Moi, je suis journaliste. Après, j'arrive plus ou moins à faire le truc, à faire le job, comme je peux, en fonction de ce que j'ai.
Enfin, vous enquêtez.
Oui, j'essaie d'enquêter. Mais c'est toujours compliqué. Je peux pas dire que j'arrive à enquêter. J'essaye, quoi. Après, ça aboutit. C'est toujours partiel, peut-être partiel, je sais pas, partiel en tout cas. Mais oui, je suis un peu plus que désabusé. Moi, je suis très inquiet. Je suis inquiet de nature et je me suis rendu compte que ce que j'ai fait pendant 20 ans, ça pèse en fait sur le, sur la psyché. Au départ, c'est très valorisant. En plus, encore, c'est l'espèce de les consoeurs et confrères qui traitent la matière. C'est un peu, voilà, on dit que c'est un peu l'aristocratie, le fait vivre, les mecs qui sont au courant des trucs et tout. En fait, la plupart du temps, je démythifie complètement les choses. Oui, on est au courant, mais enfin, finalement, pas énormément plus que le vulgaire. Il y a juste qu'on essaye d'aller plus loin quand on peut. Ça finit par peser et ça finit par angoisser de faire toujours le même truc, de sortir sur les scènes de crime, etc. Même si je le fais plus beaucoup.
Antonin Albertini, ce qui est très abouti, c'est votre premier roman, Malamorté.
Je vous remercie.
Jean-Claude Lattès, et nous vous en félicitons. Lisez ça, ça devrait vous enchanter, amis auditeurs. Est-ce que vous savez faire ça avec votre doigt?
Ouais, je pense. Ne bougez pas.
Ah oui.
Correct.
Ah, il est pas mal. Il est un peu corse sur les bords, aiguë. Mais oui.
Non, aiguë.
Oui, mais bien, je le prends. C'est pour lancer les Pop News.
La saison finale d'Orange is the New Black s'annonce dans un teaser chanté dans lequel les prisonniers de Litchfield vocalisent a cappella sur le générique.
The animals, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new. Everyone is waiting on you and you, God.
Et pour retrouver Piper, Alex, Red, Susan, Tasty et Daya une dernière fois, ce sera le 26 juillet pour une 7e et ultime saison sur Netflix.
Qui dit approche de l'été dit sable, cocktail avec un parasol en papier et les tubes pour accompagner. Et c'est un challenger sérieux au titre de chanson de l'été qui vient de s'annoncer. Ed Sheeran, l'incandescent briton, vient de dévoiler Cross Me, une nouveauté pour laquelle il est accompagné de Chance the Rapper. C'est à partir de 19 secondes. Un titre qui figurera sur numéro 6, Collaborations Project, un album sur lequel Ed Sheeran s'amuse avec ses copains et qui sortira le 12 juillet.
Il avait prévenu et ce à de multiples reprises.
I'll be back.
Et effectivement, il revient, le Terminator, dans Dark Fate. De nos jours, à Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Elle voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnus. D'un côté, une machine Terminator des plus évoluées et indestructibles venue du futur pour la tuer. Et de l'autre, un super soldat génétiquement augmenté envoyé pour la protéger. Et ce ne sera pas la seule aide qu'elle recevra.
Who are you?
My name is Sarah Connor. Never seen one like you before.
I am human. Why do you care what happens to her?
Because I was her.
Sarah Connor, oui, c'est elle. Ce Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller et à qui l'on doit Deadpool, sortira le 23 octobre.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Oh bah Terminator.
Bien sûr, Charlie.
Faut lui remettre de l'huile. Hein. Il commence à être un peu rouillé.
Avant d'accueillir Timothée Hochet, créateur de la série Calls, écoutons le groupe de hip-hop new-yorkais De La Soul pour le plus grand plaisir d'Anne-Sophie Collet, Claire-Sophie Collet et leur morceau All Good.
Weigh the situation how you want. Right. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that
it ain't all good. That's the truth. Things ain't going like you think they should.
Built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with reppin' for D.
We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now.
Them girls who brush us off say they want some numbers to die.
Yeah, I get that ass a number and some lumber to pound and catch a curve from my kid.
Won't show me love if I pray.
So stick to the same plan, don't come shaking my hand like we peeps. It ain't deep, but be sure to understand between us.
It ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like they should. It's all on you. It ain't all good. And that's the truth.
All Good, qu'on pourrait traduire par Tout va bien, hein. Un morceau signé De La Soul avec évidemment Chaka Khan. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon bruit, entre guillemets. Je lis ce qui est écrit là. Ah non, ça doit vouloir. Non. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Albertini et vient de nous rejoindre Timothée Hochet. Bonjour Timothée Hochet.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Vous venez nous parler du chapitre 2 de Calls. C'est une série sans images de 10 épisodes qui sera diffusée à partir de lundi prochain à 22h40 sur Canal+. Une série sans images, autrement dit une série qu'on écoute plus qu'on ne la regarde. Est-il exagéré de dire que ça ferait une super bonne émission de radio ?
Ça pourrait faire une super bonne émission de radio, mais pas tout à fait, parce que ça se regarde quand même. Il y a quand même un visuel, des sous-titres, une retranscription de ce qui se passe, et aussi un jeu sur le visuel, des loupiottes, on essaye de faire passer des choses qu'on peut pas faire passer au son à travers le visuel.
La saison 2, tout comme la saison 1, repose sur le principe de found footage, soit des enregistrements retrouvés. Les enregistrements en question proviennent d'une émission de radio, d'une boîte noire, de cassettes d'un psy, d'enregistrements de la police, et ça ressemble à ça.
Oh non ! Bravo, bonjour à tous, content de vous retrouver.
Yes.
L'ambiance est pas ouf, je vous dis la vérité. J'ai eu des ambiances plus
ouf. On fait semblant.
Salut tout le monde, bonjour à tous, on est en direct avec vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Il est temps de se relaxer à l'écoute d'Adrien. On est parti pour faire la fête et tout faire péter ce soir jusqu'à minuit. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée, parce que maintenant on va passer une très très bonne soirée, et cela jusqu'à minuit.
Bon, alors le principe, voilà, Ramzi Bedia, puisqu'on a reconnu sa voix.
Animateur radio.
Animateur de radio, appel sur une radio périphérique.
Radio libre antenne, un jeune homme appelle et trois petits points.
Voilà. Et là, ça va très très mal tourner.
Antoine a parlé d'émissions de radio, mais en fait, on se dit que c'est aussi un format qui serait très très bon en podcast. Vous y avez songé ?
Ou ça a été immédiatement.
Non, mais c'est très bien dans le format dans lequel c'est, mais c'est-à-dire qu'on y pense. Il y a eu des formats comme Serial qui racontaient un peu, alors sans le principe de found footage, mais des histoires un peu flippantes.
Ouais, on y a pensé au tout début, et en fait c'est adapté d'un court-métrage que j'avais fait sur YouTube, et on y a pensé au tout début à des plateformes des plateformes radiophoniques finalement, et c'était ça qui nous manquait, c'était ce visuel, et c'est pour ça que c'est une série qui se regarde aussi, c'est-à-dire qu'on voulait pas seulement avoir le son, on voulait avoir le visuel pour pouvoir encore plus crader le son, plus jouer avec ce truc qui est très étrange en fait au final, parce que c'est une série, si on regarde sans l'image, on peut pas tout comprendre. Il y a certains personnages qui ont les voix similaires, donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont pas très compréhensibles, consensibles seulement à l'audio.
Pourrait y avoir un épisode qui se passerait en Corse. Hein.
Oui,
parce que nous on parle pas.
Ah, oui, c'est vrai.
Donc ça sera un épisode.
On peut rembobiner le début de l'émission, c'est faux, vous mentez.
C'est exact.
Au casting de ce deuxième chapitre, Mathieu Kassovitz, Charlotte Lebon, Ramzi Bedia, Karine Viard, Lambert Wilson, Laure Calamy, Nils Arestrup et bien d'autres, est-ce que c'est plus facile de convaincre un acteur en lui disant qu'il ne sera pas filmé ?
Oui, étrangement. Ouais. Il y a ce truc de très, on n'a pas à se soucier déjà 12 mètres par rapport à la caméra. On n'a pas à se soucier à notre image. On se concentre seulement sur le jeu, sur la voix, sur le souffle, sur le silence, sur les, et on peut, on travaille énormément sur, voilà, les tremblements de voix, les, et du coup, quelque part, puis ça demande moins de temps aussi. Ça demande moins de préparation, moins de tout, en quelque sorte. Et du coup, ça attire vachement et.
Mais on entend à quel point il joue bien, en fait. Aussi,
ouais.
Hein.
Ouais, c'est assez impressionnant. C'est toujours hyper. Chaque épisode, chaque acteur ou chaque actrice nous a bluffé. C'est hyper, hyper bien, en fait, d'écouter un truc et de se dire, c'est bon.
Mais pour la deuxième saison, contrairement à la première, vous avez tourné certains épisodes dans des décors réels. Ça n'a pas perturbé les acteurs de tourner en conditions réelles, mais sans les caméras?
Non, au contraire, en fait, ça a été assez libérateur pour eux de se dire, en fait, je suis comme sur un tournage, sauf qu'il y a pas la caméra, il y a pas la perche, il y a pas tout ce qui est parfois embêtant et contraignant dans quand on tourne un film, tout ça est enlevé. En plus, on essaie de tourner en plan séquence, donc en fait, tout le monde est assez libre de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent improviser, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent se déplacer et tout ça en conditions réelles. Donc c'est hyper. Hyper libérateur, quelque part.
Il n'y a pas que les décors qui sont réels, les bruits le sont aussi. Vous vous basez d'ailleurs sur certaines expériences personnelles, notamment pour un épisode avec Swan Arlo, dans lequel il y a un accident de voiture. Je reviens donc à une question précédemment posée à Antoine Albertini. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits existants ou ayant existé sont purement fortuites.
Oh, c'est toujours.
Vous avez une super mémoire du son ou du.
Non, oui, en fait, il y a toujours des choses qui nous inspirent, qui sont issues de notre vie, et au final, d'une certaine façon. Là, pour cet épisode-là, c'est le son d'un accident de voiture. Forcément, ça évoque toujours des choses et toujours des. Donc, c'est un traumatisme qui est toujours présent en nous quand on en a vécu un vraiment violent, et du coup, de l'exorciser dans un épisode comme ça, et seulement à travers le son, je trouve que c'est.
Oui, c'est ça, c'est que votre accident de voiture, il ressemble pas à l'accident qu'on voit au cinéma du tout.
Ouais, exactement. Ouais. Et c'était super intéressant parce qu'on a fait un accident de voiture en réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pris une banque de son, on l'a fait en vrai. Et du coup, pour essayer de savoir, voilà, qu'est-ce que ça sonne un accident de voiture? Parce que quand on regarde dans des films, en fait, c'est pas tellement la réalité. Mm-hmm. C'est beaucoup de bruitages différents. Et finalement, un accident de voiture, ça sonne assez différemment de ce
qu'on pense. Antoine Albertini, vous poussez le souci du détail jusqu'à aller reconstituer les sons que vous imaginez?
Les sons, oui. Ça, c'est du travail de fiction pure. Quand, en revanche, il y a quelque chose, je ne sais pas du tout comment ça se passe, quel bruit ça peut faire, ou quelle couleur c'est, là, je me documente systématiquement. Y compris sur des trucs un peu bizarres, quoi.
Timothée, vous êtes fasciné par le cinéma d'horreur et vous avez voulu, avec Calls, renouveler un peu le genre en ne montrant pas à l'écran ce qui fait peur. Est-ce que, pour vous, un son peut être bien plus flippant qu'une image ?
Ouais, c'était un des propos principaux de Cole, c'est vraiment que...
Il y a Antoine Albertini qui hoche la tête à côté.
Attends, une porte qui grince quand vous avez 8 ans chez vos grands-parents.
Ouais, ou un toc-toc à 3h du matin où tu ne sais pas qui est de l'autre bout.
C'est la PJ.
Non, c'est toujours plus angoissant, même un silence, même quelque chose de... Ouais. En fait, dans les films d'horreur, c'est pour ça que j'ai fait Cole aussi, c'est que je voyais de plus en plus de films d'horreur qui montrent très rapidement ce qui est censé faire peur, ce qui est censé être gore, ce qui est censé nous faire frissonner. Et moi, mes souvenirs sont des meilleurs films d'horreur. C'est des souvenirs comme Blair Witch, Rec, des choses où on voit d'une façon assez subtile ou assez floue ce qui se passe. Et je voulais revenir un peu à ce truc de, il n'y a pas besoin d'image ou de visuel pour effrayer, en fait.
Vous avez dit, nous en avons peut-être fini avec le passé, mais le passé n'en a jamais fini avec nous. En fait, il y a quelque chose de très enfantin aussi là-dedans, dans ces frayeurs, dans...
Ouais. Ouais, totalement. Bon, ça, c'est une phrase que j'ai piquée au film Magnolia de Paul Thomas Anderson.
Non, faut pas le dire.
Ah, merde, non, c'est une phrase de moi, c'est une phrase totalement originale. Non, c'est un thème qui me fascine, ça, les erreurs du passé, et ce qui nous rattrape toujours, et notamment ce qui s'est passé dans notre enfance, et qui est toujours un peu présent, malgré, même si on essaye de l'exorciser, de se dire, non, c'est bon, je suis passé à autre chose, en fait, parfois non, et du coup, j'aime beaucoup ramener ça au présent.
Calls, c'est sur Canal à partir de lundi à 22h40, je dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
Voilà, et c'est vraiment le truc à ne pas rater. Je vous félicite.
Merci.
À tous les deux aujourd'hui, un beau plateau, je suis ravi.
Très bien.
Antoine, Timothée, bien, ravi. Enfin, je vous coupe quand même, car nous sommes vendredi et c'est donc pour moi l'heure de descendre à la cave, chercher un nouvel épisode du grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Allez, j'y vais. Milou ? T'es toujours là, Milou ? Ah, d'accord, t'es venu m'apporter la cassette du grand n'importe quoi. Merci, c'est gentil, mais où est passé Tintin ? Quoi ? Tu lui as mangé les...
Mais que fais-tu ? Je dessine un mammouth, mais en m'affranchissant de la fidélité à la réalité visuelle. Et pour cela, j'utilise des formes et des couleurs pour elles-mêmes. Au feeling, quoi. Connard. Gros connard.
Allô, maman. C'est affreux. Ils veulent tous m'épiler le cul.
C'est une excellente idée.
N'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon dressing? Oui, non, mais c'est joli, oui. Mais j'en ai besoin de mon slip, là. Vous me le rendez? Merci.
Stones dans Pop sur France Inter et ce morceau c'était Hoodoo Blues en 2016. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci Antoine Albertini, votre premier roman Malam Morte est paru le 2 mai dernier aux éditions Jean-Claude Lattès et il est plus que recommandé par Pop. Merci Timothée Hochet. Calls saison 2, c'est diffusé à partir de lundi prochain à 22h40 sur Canal+. Et évidemment, c'est indispensable. Merci à l'équipe de Pop au sens large, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail aujourd'hui. Lundi, dans Pop.
Annie, assez sucette à l'année.
Mais oui, les serres, je vous n'en reviendrai pas. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe ou une Yeuvesse, suivez-nous plutôt comme disent ceux qui font des tutos polyphonicors.
Abonnez-vous à notre podcast.
Je m'en
doutais, hein, ouais, un moment ou un autre.
Demande pardon à tous mes amis corses et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.